Prueba terminal específica de certificación. Nivel intermedio B1, bilingüe. Vous allez entendre deux documents sonores. Pour chaque document, vous aurez deux minutes pour lire les questions. Une première écoute, puis deux minutes de pause pour commencer à répondre aux questions. Une deuxième écoute, puis deux minutes de pause pour compléter vos réponses. Épreuve numéro 1.
Bonjour, spécialiste du jeu vidéo à France Info, je vous présente Émilie, Félix et Maxime. Ils sont en 5e au collège Lucie et Raymond Aubrac à Paris. Et au micro d'Estelle Fort, on commence avec toi Émilie.
Ça prend combien de temps pour créer un jeu vidéo ?
Alors ça peut prendre beaucoup de temps, plusieurs années hein, pour ce qui est des grandes sagas, on va dire les blockbusters actuels du jeu vidéo, les Call of Duty, les Assassin's Creed, les GTA. Là on est sur des développements de 3, 4, 5 années avec des centaines de personnes durant ces 5 années. Mais il y a une nouvelle mode qui est revenue hein, au début du jeu vidéo dans les années 70-80. Eh bien on pouvait faire un jeu vidéo tout seul, voire à deux, hein, dans le garage. Eh bien aujourd'hui c'est revenu, il y a des jeux qui ont été faits par deux personnes, l'un à la musique, l'autre à la programmation. Et c'est devenu des cartons. Voilà, le fait que le jeu vidéo se soit mondialisé a permis, on va dire, cette simplification et ce retour à cette mode du jeu vidéo fait avec une personne. Félix.
Combien ça coûte de développer un jeu ?
Ça peut coûter quasiment rien, un peu de temps, on va dire, quelques semaines de travail dans une chambre. Mais surtout, ça peut coûter des centaines de millions de dollars dans le façonnage du jeu et surtout dans la publicité. Maxime.
Par exemple, pour les jeux comme Dofus, quand on s'abonne, est-ce que le créateur il reçoit directement l'argent ?
Non, il reçoit pas directement l'argent. Déjà, il n'y a pas un seul créateur. C'est des aventures beaucoup plus collectives hein, que, par exemple, le cinéma ou la littérature. Donc non, le créateur, généralement, s'il n'est pas tout seul derrière la manette à avoir créé le jeu, ne reçoit pas l'argent directement. Encore que ça peut arriver, mais ce sont des cas très rares. Émilie.
Pourquoi sur l'iPad on peut jouer à des jeux et pas sur la Nintendo ? Clash of Clans sur l'iPad et Mario Kart sur la Nintendo.
Alors ça, c'est des questions de droit déjà. Nintendo, avant cette année, ne voulait pas créer des jeux sur smartphone et tablette, voilà, tout simplement. Alors ils ont changé d'avis. Et puis, il y a aussi la manière de contrôler les jeux. Quand on contrôle un jeu sur tablette et smartphone, c'est tactile, c'est simple, les bébés peuvent le faire, mais du coup, on a moins de précision qu'avec une manette. Donc il y a des jeux pour contrôler avec la manette, et puis il y a des jeux beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, simples. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué, c'est des puzzle games, c'est très intellectuel, mais c'est beaucoup plus simple à prendre en main grâce au tactile. Maxime.
Pourquoi sur certains jeux comme GTA, on peut utiliser des codes triches ?
Alors, on dit codes triches, mais en fait, c'est des codes qui ont été prévus, on va dire, par les programmeurs, tout simplement, pour pouvoir aller plus vite dans le jeu. Voilà, ils trichent
pour
eux-mêmes.
Débloquer des niveaux.
Voilà, eux, ils se débloquent des niveaux, ils vont vérifier, ils vont tester, ils vont voir, ah tiens, ce niveau-là marche bien, celui-là marche pas bien, pour ce qu'on appelle la phase de débugage. Donc, ils créent des codes. Seulement, le jeu, enfin, fut une époque, c'était un grand jeu sur PC, sur ordinateur, c'était de trouver des codes triches, justement, pour les joueurs, pour aller plus vite, pour se créer une autre armure, pour avoir des vies infinies. Et c'était un des grands jeux des années 90-2000 qui est en train de revenir d'ailleurs avec ce genre de jeu. Félix.
Quel type de jeu rend le plus accro ?
Un bon jeu rend accro. C'est délicat à dire, mais un Candy Crush rend terriblement accro. Mais un World of Warcraft qui n'a rien à voir, qui est un univers d'heroic fantasy à la Seigneur des Anneaux, on est complètement pris dans un monde virtuel. Ces deux jeux n'ont aucun rapport, sauf un, ils rendent terriblement accro.
Moi, en moyenne, je passe une heure par jour sur les jeux vidéo. Et les gens, combien ils passent en moyenne ?
C'est déjà pas mal, une heure, ouais, une à deux heures. Je pense qu'on est dans la moyenne. Je crois que c'est une heure et demie, hein, mais on est encore très très loin de la télévision. La télévision, c'est 2h30 en moyenne.
Épreuve numéro 2.
Bienvenue dans nos quartiers. À l'honneur cette semaine, un événement majeur du hip-hop, le Juste Debout, qui a lieu dimanche 2 mars à Paris. Son créateur est notre invité, Bruce Ikhanji. Bonjour.
Bonjour, André.
Vous êtes danseur et créateur de cette rencontre mondiale dont nous allons parler, mais commençons par vous. Vous naissez en 1976 dans le 11e arrondissement de Paris, d'une mère française, secrétaire dans un cabinet d'avocats, et d'un père franco-camerounais, ingénieur en informatique. Et vous avez 5 ans quand votre père décide d'emmener sa petite famille s'installer au Cameroun, où il veut importer des ordinateurs, où il veut développer l'informatique. Mmh. Et c'est là, au Cameroun, à 8 ans, que vous découvrez la danse. Précisément, vous commencez par le Smurf.
Exactement, le Smurf. Alors ça a commencé à 8 ans. Je suis tombé amoureux de cette gestuelle, de ce mouvement. Et, c'était au Cameroun, c'était tout nouveau pour moi et... J'ai embrassé la danse avec un grand D.
Ouais, c'était les années 80.
Hein. Voilà, exactement.
Et vous n'avez que 10 ans quand votre père meurt, votre mère rentre en France avec ses 3 enfants sous le bras. Mmh. Là, c'est dur. Hein.
Là, c'est retour à la réalité. Et, mais la danse, toujours là pour me faire oublier tous ces soucis du quotidien.
Ouais. Voilà. Plus de papa, la pension à Bordeaux, puis la banlieue de Seine-et-Marne. Et vous, le bon élève, décroché à l'école. Mais les grands des quartiers vont vous prendre sous leurs ailes. Mmh. Et c'est avec eux que vous allez découvrir, en fait, les différents styles du hip-hop.
Voilà, je vais redécouvrir et continuer mon initiation à la danse hip-hop et me perfectionner dans cette discipline.
Et là, c'est parti. Alors, vous êtes très doué. À 20 ans, vous intégrez la compagnie Ikhanji, ce qui veut dire bon esprit en japonais. Mmh. Et vous adoptez ce nom, d'ailleurs. Hein.
Ouais, c'est un peu mon nom de groupe, quoi.
Ouais, voilà. Ça vous correspond.
J'espère.
Et à 21 ans, vous dansez pour MC Solar, puis vous serez tour à tour danseur ou chorégraphe pour Les Dix Commandements, Mystique, Billy Crawford, Urban Peace et... En 2002, vous créez votre festival, Juste Debout, on va en parler. Puis, en 2009, une école du même nom, Juste Debout. Alors, parce qu'en fait, dans le hip-hop, il y a les danses debout et les danses au sol.
Mais en fait, dans les années 80, on était tous réunis sur le nom de la danse hip-hop. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu plus diversifié. Et c'est vrai que la danse hip-hop pour le commun des mortels, c'est la danse au sol, le break.
Oui, c'est ça. On imagine les danseurs qui dansent sur la tête et qui tournent sur le dos.
Exactement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres disciplines. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le juste debout aussi, pour se différencier.